explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Ils incarnent la liberté, symbolisent la légèreté et la joie de vivre. Les oiseaux occupent une place particulière dans le règne animal et dans nos imaginaires. Les ornithologues Élise Rousseau et Philippe Dubois ne se lassent pas de les observer et de les écouter. Pour ces passionnés, la rencontre avec les oiseaux commence dès qu'ils mettent un pied dehors dans leur jardin ou le long de la côte bretonne où ils vivent. Mais leur quête ornithologique peut les mener jusqu'au bout du monde. Philippe Dubois a sillonné la planète de l'Antarctique à la Sibérie pour le plaisir fugace d'apercevoir dans ses jumelles un oiseau rare. Plus récemment, avec Élise Rousseau, ils ont mené une expédition à travers le désert de Gobi, en Mongolie, sur les traces des volatiles emblématiques de la région, tels que la fauvette babillarde ou le cirapte paradoxal. Au fil de leurs voyages et de leurs observations, les deux ornithologues ont acquis une certitude. Au-delà de l'émerveillement que les oiseaux suscitent, ils nous font profondément du bien. Le chant d'une alouette ou d'un rossignol, le vol d'un goéland ou d'un albatros peut nous apaiser, nous réconforter et alléger notre existence. Dans un joli livre intitulé « Ornithérapie » paru aux éditions Albin Michel, Élise Rousseau et Philippe Dubois racontent comment s'ouvrir au monde des oiseaux peut changer nos vies et les rendre plus joyeuses. Cet après-midi, ils viennent partager avec nous le bonheur d'observer et d'écouter les oiseaux d'ici et d'ailleurs. Et en fin d'émission, nous avons rendez-vous avec un autre naturaliste de terrain, Marc Giraud, qui lui nous emmènera observer les écureuils. Emma Bouvier a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Maxime Goudard. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il est là, là-haut. Pas descendre. C'est un chevalier aboyeur. Je voudrais bien vous le montrer, je voudrais bien que vous trouviez tout seul.
Moi je l'ai vu.
Mais il est loin. Il est juste là, on voit que le bout de sa queue, il va passer derrière, il sort à gauche. Il niche dans le milieu de la Scandinavie et puis il va passer l'hiver au sud du Sahel, à partir du Mali, du Niger, du Nigeria et jusqu'en Afrique du Sud. Et ici à Susignaux, on est vraiment sur le dernier marais avant la mer.
Le fait d'avoir les jumelles, le fait d'avoir du matériel quand même professionnel, ça permet de voir que derrière, il y a vraiment autre chose. Il y a de la vue, il y a de la biodiversité, il y a tout ça.
Moi, ce qui me surprend toujours, c'est la distance qu'un oiseau peut faire. Malgré son petit poids, il peut faire des centaines de kilomètres sans se ravitailler. Ça m'est pas tout le temps.
Les spatules, vous avez vu les aigrettes, vous avez vu les mouettes. On a fait les mouettes, on a fait le grand gravelot, on a fait les avocettes, on a fait les barges à queue noire. Ça, c'est des pigeons, on s'en fout.
Pauvre pigeon, c'était un extrait d'un reportage de France 3 Bretagne avec un ornithologue, David Ledan, en train de faire découvrir donc à un petit groupe les oiseaux de passage dans le marais de Susignaux, près du golfe du Morbihan. Bonjour Élise Rousseau et Olivier Dubois.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. Alors nous commençons, vous l'avez compris, notre bivouac dans le golfe du Morbihan, car c'est là que vous vivez depuis quelques années. Quand vous avez choisi de vous y installer, vous avez pris en compte les oiseaux observables dans la région, Élise Rousseau ?
Oui, bien sûr, on n'est pas arrivé là par hasard. Ouais. Alors même si j'ai des origines bretonnes, effectivement le marais de Susignaux, on le connaît bien, on connaît bien aussi l'ornithologue qui parlait, David Ledan.
Ouais. Et vous êtes d'accord avec lui sur les pigeons ?
Ça... Ah non, moi j'adore les colombines, ouais, hein. J'adore les tourterelles, j'adore les pigeons.
Réhabilitons les pigeons, bon c'était une façon de parler, hein. Il est passionnant sur les oiseaux. Vous ne pouvez pas passer une journée sans les observer, ces oiseaux.
Mais en fait, ils font tellement partie prenante de notre quotidien qu'on peut pas ne pas les observer. En fait, ils sont. Et en fait, l'idée vraiment de nous, ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est regarder les oiseaux, observez-les. Ils sont partout là, avec des petits comportements rigolos, leur chambre magnifique, et c'est de la beauté pure au quotidien qui nous fait tellement de bien.
Mmh. Si vous n'observez pas des oiseaux, ça vous manque très rapidement, Philippe Dubois. Vous en avez besoin pour votre équilibre mental, personnel.
Oui, complètement, c'est-à-dire que...
Alors on va ouvrir votre micro, allez-y.
Voilà, oui complètement, je vais vous dire, moi quand je sors faire une course par exemple, immédiatement, je porte la main à ma poitrine parce que je sens pas la paire de jumelles, vous voyez. Il me manque cette espèce de deuxième cœur, ce deuxième cerveau même, pour aller bien. L'observation des oiseaux, c'est quand même consubstantiel de mon existence. Ouais. Je veux dire.
Alors, vous n'avez pas attendu que la science démontre formellement les bienfaits que procure l'observation et l'écoute des oiseaux pour vous adonner à cette passion et à cette pratique. Dans votre livre Ornithérapie, vous livrez quelques découvertes récentes en la matière. Vraiment, ça fait du bien. C'est scientifiquement prouvé, Élise Rousseau.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que naturalistes, on savait, on ressent que ça soit dans notre observation quotidienne ou au contraire lors de voyages qu'on a pu faire à l'étranger, on ressentait le bien que ça nous faisait, ça nous paraissait une évidence, mais alors on mettait ça un peu sur le fait de notre passion.
Ouais.
Or, effectivement, il y a des études qui ont démontré que ce qu'on ressentait de façon empirique, en fait, c'est réel, en fait, ouais. Scientifiquement, c'est prouvé.
C'est, oui, complètement, juste pour...
donner des exemples.
Ouais, pour donner des exemples, des études notamment anglo-saxonnes, qui ouais. sont très en avance par rapport à nous, qui montrent que 20 minutes dehors, à écouter les oiseaux, à être dans la nature, fait diminuer notre taux de cortisol. Le ouais. cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, on sait que les pensées irrationnelles, l'anxiété va diminuer de façon consistante pendant un certain temps. Et si on pratique ces bains d'oiseaux, si vous voulez, deux heures par semaine, le bienfait peut être pérenne.
C'est-à-dire qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y a des prescriptions très sérieuses qui sont faites d'aller prendre un bain d'oiseaux.
Absolument. Dans certains comtés anglais et certains États américains, le médecin généraliste va prescrire des sorties ornithologiques pour certains de leurs patients qui sont sujets à dépression ou à pensées morbides, etc.
Alors, dans ce bivouac, on va en entendre des chants d'oiseaux. Ça va être un bain radiophonique de chants d'oiseaux. Quand on les observe et qu'on les écoute, il y a de quoi s'inspirer. C'est ce que vous proposez aussi dans votre ouvrage. Vous dites que les oiseaux nous invitent à la méditation. Élise Rousseau.
Bien sûr, en fait, nous les humains, on a toujours du mal en fait à s'ancrer dans le temps présent. C'est toute la question des psychologies, des philosophies anciennes. C'est comment se retrouver ce carpe diem, ce temps présent, cet ancrage en fait dans l'instant. Nous humains, on est toujours à se projeter dans le futur, à avoir peur du futur ou à ruminer le passé, tous les soucis qu'on a eus. C'est vraiment notre difficulté d'humain, c'est de à un moment donné de déconnecter avec notre cerveau et de vraiment se poser dans le présent. Or l'animal, il y est naturellement. Donc dès lors qu'on observe un oiseau, qu'on se met vraiment en connexion avec la nature et notamment l'oiseau qui est tellement fugace. En fait, c'est-à-dire l'oiseau peut vite s'envoler, donc il faut vraiment être pleinement. Vous voyez, une fleur, vous avez le temps de rêvasser avec un oiseau, bon, il faut vraiment quand même être ancré.
Encore que ça se discute, parce que vous donnez dans votre exemple, dans votre livre, pardon, des exemples d'oiseaux qui semblent, par leur comportement, plonger dans une certaine méditation. Vous citez le héron au bord d'un lac, le cormoran et l'étendue en position héraldique, dites-vous, le pigeon ramier, le faucon cresserelle sur son piquet, le cygne glissant sur l'eau. Ils peuvent avoir des postures un peu qui rappellent celles de la méditation.
Mais complètement, je pense que ce sont des grands maîtres zen pour les humains, parce que comme l'a dit Élise, ils sont en plus dans le carpe diem, donc ils sont vraiment dans l'instant.
Ouais.
Et on sait très bien que pour être au mieux avec soi-même, il faut savoir se poser dans cet instant. On vit dans un monde où tout est immédiat et où on ne prend pas le temps de l'instant. Et les oiseaux, c'est vraiment ce qu'ils nous enseignent.
Ouais, le temps de l'instant. Et puis, évidemment, ce chant, pour certains, en tout cas, mélodieux, qui est utilisé pour nous plonger dans certaines méditations. Alors, on va pas prendre le chant du coq ou le croassement du corbeau, mais par exemple, celui-ci. Alors là, on a affaire à un...
pinson des arbres.
C'est ça, un pinson des arbres. Je ne vous fais pas de piège, vous l'avez reconnu. Celui-ci, il peut plonger dans un état un peu méditatif.
Bah, c'est une petite trille légèrement descendante. Il suffit, surtout je pense que dans ces cas-là, il faut savoir mettre nos sens en éveil. On a trop tendance à entendre et à pas écouter. Comme on a d'ailleurs tendance à trop voir et à pas regarder. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et le chant du pinson, comme d'autres chants, ça va nous inviter à écouter, à rentrer dans son intimité.
Allez, on va justement en écouter un autre là.
C'est l'alouette des champs.
Ouais.
Alors ça, c'est moi
c'est une des virtuoses, la louette des
champs. C'est une virtuose, et puis c'est surtout, pour moi, c'est un des chants qui est le symbole de l'optimisme. Parce qu'elle chante très tôt en saison, dès fin janvier, début février, si la journée est ensoleillée, elle va se mettre à chanter. Et quand il fait encore froid, et que vous entendez dans un ciel bleu, ce chant de l'alouette, vous dites le printemps est vraiment pas loin.
Oui, c'est ça. Elle annonce le printemps.
Elle annonce,
oui. Il y a beaucoup d'oiseaux comme ça, qui sont associés au printemps.
Oui.
C'est lié à quoi? C'est-à-dire que avant ils ne chantent pas, mais ils sont là, ou c'est vraiment le moment où ils arrivent?
Alors, l'alouette, elle était déjà là, elle se met à chanter.
Ouais.
L'hirondelle rustique, elle n'était pas là, et elle commence à arriver. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays de l'Est, c'est pas l'hirondelle qui est annonciatrice du printemps, mais ce sont les étourneaux qui ont hiverné chez nous et qui reviennent au printemps dans les pays scandinaves, pardon, ou d'Europe de l'Est, et qui sont, eux, annonciateurs du printemps.
Alors, vous trouvez aussi que certains oiseaux semblent de fervents adeptes du yoga, et notamment celle-ci. Alors elle, c'est pas à cause de son chant, c'est la mésange bleue. Mais pourquoi vous trouvez qu'elle nous invite à faire du yoga?
Alors, le yoga, c'était un petit clin d'œil.
Ouais.
C'est pour parler des étirements. C'est-à-dire que quand vous observez des oiseaux, que ce soit une tourterelle sur un fil, vous les voyez toujours en train d'étirer leurs ailes, de bâiller, d'étirer leurs pattes, de prendre le temps de prendre soin de son plumage. Et en fait, ils sont dans le fait de prendre soin. Et les animaux, en général, vous pouvez observer un chat, un chien, mais même un petit enfant, en fait, a tendance naturellement à faire ces étirements. Et nous, dans nos vies speed, on pense jamais à s'étirer, on pense jamais à bâiller. Alors, dans le travail, c'est encore moins bien vu. Or, on sait que ça fait baisser la tension, que c'est très bon en fait pour la santé de s'étirer, ne serait-ce que de prendre ce temps en fait, de bâiller aussi.
Et vous notez d'ailleurs que dans le yoga, il y a énormément de positions ou de mouvements qui portent
des noms d'oiseaux.
Des noms d'oiseaux.
Tout à fait. Donc du coup, je me dis qu'il y a sûrement un petit clin d'œil réciproque entre.
Oui.
Parce que les oiseaux effectivement ont des postures naturellement, comme je vous disais, d'étirement, de relaxation. En fait, les animaux prennent le temps de se relaxer.
Alors pour vous, les oiseaux sont aussi une invitation au voyage. Philippe Dubois, dès vos 15 ans, vous avez commencé à barouder à travers le monde. Vous êtes allé, le premier voyage, je crois que c'est en Corse, vous êtes allé
en Corse, oui, j'avais 13 ans, et puis ensuite j'avais une bourse j'avais 16 ans pour aller en Roumanie, dans le delta du Danube.
Oui. Ça c'est un grand souvenir. Vous l'avez raconté dans un précédent ouvrage, les tribulations d'un chercheur d'oiseaux.
C'est ça.
Et c'est un grand moment, voyage initiatique, la Roumanie.
Oui.
En quelques mots, c'était...
On est parti à quelques-uns pendant 6 semaines, on a pris le train à travers toute l'Europe, et puis on faisait du stop, on a voyagé en char à bœuf, vous voyez, donc là on prenait le temps.
Là vous preniez le temps. L'un et l'autre, ensemble, vous avez fait un voyage en Jordanie, à Petra, et vous vous êtes laissé enfermer dans la cité nabatéenne de Petra, pour écouter les oiseaux.
Oui, pour écouter notamment la chouette de Butler, en fait.
Ouais.
Moi, j'adore notamment les rapaces nocturnes, les chouettes. J'ai même travaillé à leur protection quand j'étais plus jeune. Et en fait, on ne l'a pas vu, mais on l'a entendu chanter dans ces grottes. Et ça fait partie des moments magiques, en fait, de la vie d'un naturaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, les grilles de la cité étaient en train de se refermer. On était là dans la nuit tombante, et la chouette commençait à faire résonner son chant magnifique en pleine nuit. Et c'est des moments magiques. Et ça, c'est la magie de la vie d'ornithologue, je pense.
Ouais. Vous avez profité, vous, Philippe Dubois, du moment où l'URSS est tombée, où les frontières qui étaient infranchissables sont devenues franchissables, et ça vous a donné accès à des lieux, pour un ornithologue, magiques.
Oui, notamment dans l'est de la Sibérie, la fameuse île de Saraline, qui est une île. Alors, quand on parle de l'île de Saraline, aux gens, ils savent pas trop où c'est, et surtout quand on leur dit que c'est une île qui fait 1000 km de long, ils en croient pas leurs yeux, parce que c'est immense. Elle a été ouverte avec l'effondrement de l'Empire soviétique, et puis elle était refermée en fait au début des années 2020, donc cette ouverture a été très courte, et j'ai eu la chance à la fin des années 90 d'y aller. On était les premiers Européens, enfin les premiers Français plus exactement, parce que les Anglais y étaient allés, ils sont toujours avant nous, les premiers Français à aller sur place depuis la fin du 19e, quoi.
Avec des espèces ici qu'on ne trouvait nulle part.
Ah oui, des espèces qui sont soit des endémiques, soit des migratrices qui remontent vers l'extrême nord-est de la Sibérie, donc dans des lieux totalement vierges d'ornithologues occidentaux, ça c'est clair. Et voilà.
Je vous avais reçu il y a une dizaine d'années, dans le temps d'un bivouac, l'émission existait déjà, et à l'époque vous m'aviez dit, il y a encore un voyage que je n'ai pas fait et que je rêve de faire, c'est la forêt amazonienne, c'est le Brésil, parce qu'il y a là, on imagine, des oiseaux boulot absolument fabuleux pour les ornithologues. Et depuis, vous avez fait ce voyage.
C'est ça. On y est allé avec Élise il y a 5 ans. Il fallait quand même, quand on est ornithologue, aller côtoyer cette avifaune absolument fabuleuse et d'une diversité absolument incroyable.
Et avec des chants qui, alors pour nous, sont tout à fait exotiques et vraiment surprenants. On en écoute un. Ça, c'est le troglodyte musicien.
C'est ça. Et quand je fais écouter ce chant, les gens sont persuadés que c'est un morceau de musique synthétique, quoi. Ouais. Or, c'est un oiseau, en plus, qui est en sous-bois. On le voit pas. Il est dans la pénombre. Il fait 99% d'humidité. Il y a des moustiques partout. Et lui, il chante tranquille. Heureux d'être dans sa forêt où il voit quasiment jamais le jour, quoi.
Et cet oiseau, vous l'avez uniquement entendu ou vous avez quand même réussi à le voir dans
Entendu, oui. J'ai dû voir une ombre sombre qui glissait entre les buissons. C'est malheureusement souvent comme ça qu'on voit les oiseaux en forêt tropicale.
Ouais. Au Brésil, vous avez également entendu celui-ci, qui fait un son particulier. On est à mi-chemin entre une gamme descendante, c'est quelqu'un qui se moque un peu de nous, qui se fout de nous. C'est incroyable, c'est pas du tout des chants auxquels on est habitué.
Non, hein. Alors lui, on l'a vu, c'est l'ibigeau gris, et c'est un oiseau qui en plus se tient vertical, ouais, le long d'une branche, et qui a la couleur branche. Donc quand vous voyez une branche qui chante, c'est l'ibigeau.
Ah oui, voilà. Une branche un peu particulière, parce qu'avec Emma Bouvier, avec qui on a préparé cette émission, on a été regarder à quoi il ressemble cet oiseau. Et il a un regard jaune, on dirait presque un dessin animé, il a une tête très surprenante.
Ah oui, parce qu'en fait, c'est un oiseau qui vit surtout la nuit, qui a des grands yeux, et puis de jour, il a toujours les yeux fermés.
Ouais.
Il est très étonnant.
On a l'impression qu'il regarde un peu dans les coins.
Oui,
une sorte de strabisme, c'est assez
divergent.
Allez, vous avez ensemble aussi effectué un grand voyage dans le désert de Gobi pour aller observer des oiseaux rares, et pas seulement des oiseaux. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis vous nous donnerez aussi des conseils et des astuces pour observer et reconnaître les oiseaux de nos régions. Cet après-midi, les ornithologues Élise Rousseau et Philippe Dubois nous emmènent à la rencontre des oiseaux d'ici et d'ailleurs. Le temps d'un bivouac au bal des oiseaux, aujourd'hui sur France Inter.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dis où vas-tu, monte derrière avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts. Quel âge as-tu, toi? Au petit matin, nous voilà en ville. J'ai déjà faim, comme un crocodile. J'ai beau demander un café au lait, on me donne rien, même un morceau de pain.
Da da da.
C'était Thomas Fersen qui chantait le bal des oiseaux, bien sûr.
Bonjour. Bonjour, rentrez, asseyez-vous.
On peut rentrer comme ça dans une yourte, on s'arrête, on rentre.
Ouais. Et nous, depuis très très longtemps, je ne sais pas combien d'années, depuis des siècles, on fait ça. Si on arrive devant une yourte, si on a soif, si on a faim, on arrive devant une yourte, on rentre.
Sans frapper.
Voilà.
Ah, vous déménagez, non?
Oui, il faut qu'on bouge, il fait trop sec ici, c'est la canicule. Nous, les Mongols, nous sommes nomades. Et ces maisons-là, on les utilise depuis toujours, et on continue à vivre avec. En plus, ça se monte et se démonte simplement.
Et nous voilà arrivés sous une yourte de nomades mongols dans le désert de Gobi. C'était un extrait d'un documentaire de Des Racines et des Ailes, diffusé en 2006 sur France 3. Nos invités, les ornithologues Élise Rousseau et Philippe Dubois, ont publié Ornithérapie aux éditions Albin Michel, où ils racontent les bienfaits que peut procurer l'observation des oiseaux. Et vous êtes allés les observer jusque dans le désert de Gobi, ces oiseaux. Vous avez pu goûter à l'hospitalité des nomades sous leur yourte,
oui,
Élise
Rousseau ? Oui, bien sûr. Et vous savez, moi, rien que d'entendre leur voix, ouais, ça me procure beaucoup d'émotions, parce que j'adore les habitants de la Mongolie, j'adore la Mongolie. C'est des gens qui ont une hospitalité, un sens de l'humour extraordinaire, qui sont passionnés de chevaux. Enfin, je m'entends très bien avec eux.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'à côté des oiseaux, vous avez aussi cette passion pour les chevaux. D'ailleurs, le titre de votre ouvrage, Ornithérapie, emprunte à l'équithérapie, où on utilise le cheval avec des vertus thérapeutiques. Pardon, je vais y arriver. Et donc, dans ce désert de Gobi, évidemment, on se déplace encore beaucoup à cheval.
Alors, dans le désert de Gobi, non, on ne se déplace pas à cheval, parce qu'on ne se déplace pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, en fait,
dans la steppe mongole.
Dans la partie du désert où on est allé, qui s'appelle le Gobi A, c'est totalement minéral, en fait. On a l'impression d'être sur la Lune. Et nous, on y est allé parce qu'on a un ami mongol, un professeur d'université, Terbiche, qui a la gentillesse de nous accompagner des fois dans des expéditions un peu folles. Et en fait, on est allé parce que eux, effectivement, étaient en train de suivre la trace d'un ours, en fait, avec toute une équipe qui protège l'ours de Gobi. Et en fait, c'est vraiment, effectivement, c'est grâce aux Mongols qu'on est allé là-bas. On pouvait pas y aller seul.
Ouais. Alors, les chevaux de Mongolie, on les trouve où?
Alors, plutôt dans la steppe, il leur faut de l'herbe, quand même.
Ouais, c'est ça, il faut un peu d'herbe, c'est ça. Ouais. J'ai mélangé steppe mongole et désert de Gobi. Décrivez-nous ce désert, Philippe Dubois.
Alors, c'est comme le dit Élise, c'est très, 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 très minéral. Nous, on a passé, par exemple, 10 jours dans le Gobi A. On n'a pas rencontré un humain. En 10 jours, pas un humain, pas l'ombre d'un humain. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que de temps en temps, il y a des oasis où il y a une eau très pure et quelques arbres. C'est pas des palmiers, mais ce sont des peupliers, figurez-vous, qui poussent dans ces oasis. Et ce sont vraiment là où se concentre la vie animale et végétale. Ouais. Et sinon, c'est vraiment un désert de pierre. C'est totalement lunaire.
Ouais, avec une superficie immense.
Désert de Gobi, c'est presque trois fois la France en taille, puisque ça mord entre la Mongolie et la Chine. Donc c'est vraiment immense.
Ouais. Donc un paysage minéral avec ses petites oasis. Et dans ce paysage minéral et ses petites oasis, il y avait des oiseaux à aller débusquer.
Voilà, c'est... Alors ça, c'est un truc de spécialiste. Ouais. Il y a un petit passereau qui s'appelle la fauvette babillarde, qui a plusieurs espèces ou sous-espèces. La génétique n'est pas encore complètement certaine. Et notamment une population qui est totalement inféodée à ces oasis au fin fond du désert de Gobi, qui n'avait pas été observée depuis l'époque où les naturalistes russes en avaient collecté pour les muséums. Et je voulais vraiment aller voir cette fauvette. Donc, on est allé au cœur de ces oasis pour la photographier, l'enregistrer, et puis voir un petit peu quel était ce type de milieu. C'est incroyable. D'un seul coup, vous avez cette fauvette qui, comme on pourrait en voir une derrière notre jardin, sauf qu'elle est elle est sur la Lune, quoi.
Ouais. Alors, on va entendre un cri de fauvette babillarde, le cri d'alarme que vous avez enregistré. Et on entend effectivement le bruissement de l'eau derrière.
Qui est autour, absolument.
Elle ressemble à quoi alors cette forêt de babillard?
Alors la forêt de babillard, c'est une espèce qui a une répartition effectivement assez large, qu'on en a même en France. Elle est brune dessus, brun gris, crème en dessous, avec les joues d'un gris un peu plus foncé. Elle n'est pas extraordinaire en termes de...
Voilà. Mais c'est ce qui est fascinant avec vous, les vrais de vrais ornithologues, c'est que votre plaisir... Ça n'est pas forcément d'aller observer l'oiseau
très
avec
coloré.
Très coloré.
Non. C'est aller voir
petit truc qui paye pas de mine.
Voilà, absolument, vous avez raison. Et là, c'est vraiment une population dont on ne sait quasiment rien. Et c'était vraiment l'intérêt, c'est d'aller voir si elle chante comme les nôtres. Elle ne chante pas comme les nôtres.
Ah oui.
Donc, ce qui veut dire déjà qu'il y a probablement une radiation qui se fait au niveau.
C'est-à-dire une différenciation d'espèces.
Voilà, peut-être en cours. Donc, c'était vraiment, on peut nous prendre pour des fous quand on voit la tête de l'oiseau qui n'est pas effectivement l'oiseau le plus coloré. De la vie faune mondiale.
Et puis, les instants, après avoir souffert dans ce désert aride, après avoir fait tous ces kilomètres, ça peut être pour une rencontre qui dure quelques instants, une rencontre fugace dans un bout de jumelle.
Le temps de l'enregistrer, de faire quelques photos, et elle est partie. Et puis en plus, c'est un milieu quand même assez dur, parce que quand au milieu de l'eau, il y a des insectes, et notamment des moustiques, donc il faut se battre en même temps, tout en essayant de la retrouver. Enfin, et on transpire parce qu'il fait chaud. Enfin,
ouais. C'est vraiment un truc de passionné. Et vous avez aussi capté le chant du cirapte paradoxal. J'adore le nom. Ils ont l'air plusieurs, là.
Là, c'est un grand vol qui, ils ne sont actifs que le matin très tôt et le soir parce qu'ils vont boire. Justement, ils sont capables. Les cirapes, c'est de la famille des pigeons.
Ouais.
Et c'est une espèce qui parcourt des kilomètres et des kilomètres dans la steppe ou dans le désert pour aller trouver un point d'eau pour aller boire. Mmh. Et juste une anecdote, c'est une espèce qui autrefois faisait des grandes migrations, des invasions, comme les Huns, comme Attila ou comme, si vous voulez, comme Genghis Khan, c'est-à-dire qu'ils partaient d'Est pour aller jusqu'à l'Ouest.
Ouais.
Et jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a eu des invasions jusqu'en France.
Ouais.
Il a même niché en France. Et puis, pour une raison inconnue, ces grandes irruptions se sont totalement arrêtées.
Il ne vient plus nous rendre visite.
Plus du tout.
Et on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas.
On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas du tout.
Quel dommage.
Oui.
On n'a plus le droit de voir ce cirapte paradoxal. Et vous n'y alliez pas que pour observer des oiseaux. Hein. Élise Rousseau, dans un précédent livre qui est paru aussi chez Albin Michel en 2024, l'année dernière, vous avez raconté ce voyage avec ce titre, Mazalai. Je ne sais pas si je prononce bien.
Oui, très bien.
Mazalai, c'est le nom de l'ours de Gobi, une sous-espèce de l'ours brun. Et vous aviez terriblement envie de le voir, cet ours brun. Avant de le voir, on va l'entendre. Vu qu'on a écouté des oiseaux, on va écouter le bruit de l'ours brun de Gobi. Il n'a pas l'air complètement commode. Vous vouliez le rencontrer.
C'est un peu moins relaxant que les oiseaux.
C'est un
dire
peu
les
moins
choses.
Relaxant.
Mais c'est un ours vraiment très inoffensif et qui a très très peur de l'homme. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile à voir. On ne voit presque jamais parce qu'il se cache, il se planque dans le désert. Il n'en reste plus qu'une quarantaine.
40 ours dans ce désert immense qui fait trois fois la France.
C'est un ours complètement adapté à la vie dans le désert. C'est vrai que c'est une sous-espèce, mais un ours, ce qu'on disait, un ours brun normal ne pourrait pas survivre là-dedans. Il n'y a vraiment rien à manger. Il faut trouver les points d'eau. Il fait très chaud, très froid, c'est vraiment très rude et c'est assez incroyable de savoir qu'il existe encore un ours là-bas. C'est un animal qui est vraiment sacré pour les Mongols, qui est vraiment extraordinaire et on était vraiment sur la piste de cet ours et de ces oiseaux mais ça a été vraiment un voyage initiatique parce que c'était vraiment aussi une rencontre avec le silence parce que on se rend compte que la nature est à la fois on a beaucoup parlé des chants et du bruit que fait la nature, des bruits merveilleux de la nature, mais ce silence est aussi merveilleux et notamment il y a un oiseau là-bas qui s'appelle le traqué du désert qui, comme ça, est un oiseau effectivement qui ressemble pas à grand chose, dont le chant n'a rien d'extraordinaire, sauf que quand il chante dans un désert où on n'entend strictement rien, tout d'un coup ce chant résonne en fait à des kilomètres et c'est absolument fabuleux.
Cette quête, ce voyage initiatique sur les traces de cet ours, je rappelle, on va pas dire si vous l'avez trouvé pour ménager un peu le suspense de ce livre, mais je rappelle que si on veut la découvrir, le livre s'intitule Mazalai et c'est paru chez Albin Michel. On va mettre évidemment les références de l'ouvrage sur la page de l'émission. Revenons à nos oiseaux. oiseaux. Vous nous avez dit, fut un temps, le cirapte paradoxal venait jusqu'en France. Ce sont des grands voyageurs, ces oiseaux. Et vous, vous racontez que depuis la côte bretonne où vous habitez, il vous arrive de vous asseoir sur le bord d'une falaise et de passer mes 7-8 heures à regarder passer ces voyageurs qui ne font que passer.
Oui, mais je suis... Alors, une de mes grandes passions aussi, c'est les oiseaux marins.
Ouais.
Et je pratique ce qu'on appelle un vilain terme anglais, mais qui s'appelle le sea-watching, c'est-à-dire on observe la mer. Donc, on est face à la mer, donc dos à l'humanité, dos à la Terre.
Ouais.
Et on a en face de soi l'étendue de l'océan et l'immensité du ciel. Et dans nos longues vues, on attend, au moment des migrations, donc surtout à l'automne d'ailleurs, on attend que les oiseaux passent pour les identifier, les compter et quantifier ainsi le flux des oiseaux migrateurs. Alors c'est souvent des oiseaux qui arrivent de très très loin, du Groenland, de Sibérie, etc., et qui vont hiverner au large de l'Afrique du Sud, dans les eaux subantarctiques, notamment la sterne arctique, les labs, etc., qui sont des oiseaux... Vous êtes là, très concentré sur un point fixe, et dès qu'un oiseau apparaît dans ses jumelles, dans vos jumelles, eh ben on essaie de lui poser un nom. Et c'est très émouvant de se dire, tiens, ce lab qui est en train de passer a niché peut-être en Nouvelle-Zemble ou dans la péninsule de Kola ou dans l'extrême nord de la baie d'Hudson et il va aller passer l'hiver au large de la Namibie. Il aura fait 15 ou 18 000 kilomètres.
C'est ça, c'est ce qui est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'une sterne arctique, c'est pas bien gros et ça fait...
90 000 kilomètres par an.
Mais oui.
90 000 kilomètres, donc dans une vie de sterne qui fait au moins 20 ans, elle aura fait 2,5 fois la distance de la Terre à la Lune.
À la Lune, mais ils sont absolument...
En voyant quasiment tout le temps le soleil, puisqu'en fait, l'été, elle est dans l'Arctique, où il fait jour tout le temps, l'hiver, elle est dans l'Antarctique, où il fait jour tout le temps. Ouais. Donc elle est complète. Elle est l'accompagnatrice du soleil et de la lumière. Ouais.
Ces animaux sont absolument fascinants, on le voit d'une résistance incroyable, d'une grande diversité aussi, parce que on en mentionne quelques-uns, mais vous êtes allé jusqu'en Antarctique ou dans les terres australes et antarctiques françaises, vous avez vu des manchots. Là, on a affaire à des oiseaux qui sont devenus complètement terriens, voire aquatiques.
Oui.
Donc, il y a une diversité aussi dans ce monde des oiseaux phénoménales.
Les oiseaux occupent absolument tous les milieux terrestres, aquatiques, d'eau douce, et même de mer, mais sans s'y reproduire, de la planète. On retrouve des oiseaux dans des milieux où l'homme ne peut pas vivre, ou ne peut pas vivre très très longtemps.
Et cette résistance, cette capacité d'adaptation, cette grande diversité, peut-être qu'il faut aller la chercher dans le fait qu'ils ont une très longue histoire, ces oiseaux. Depuis combien de temps, Élise Rousseau, les oiseaux sont sur Terre?
À peu près, oui,
125 millions d'années, c'est ce que vous dites dans votre livre, moi je vous ai lu.
C'est-à-dire qu'on dit, c'est-à-dire que c'est effectivement les descendants des dinosaures. Et moi, en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est que les oiseaux, effectivement, c'est des animaux extrêmement résistants, extrêmement anciens. Et s'ils disparaissent aujourd'hui, c'est plutôt hyper inquiétant parce que c'est pas des animaux, c'est des animaux hyper adaptables. Il n'y a pas de raison que les oiseaux disparaissent sur Terre.
Ouais. Alors, vous l'avez dit très très vite, mais j'aimerais bien quand même qu'on prenne le temps de l'entendre. Ce sont les descendants des dinosaures. Donc quand on dit « les dinosaures ont disparu », on fait une erreur, ils n'ont pas tous disparu.
Ils se sont transformés en petits oiseaux.
Certains d'entre eux ont évolué.
Mais si vous regardez, ne serait-ce qu'une poule, vous imaginez que vous seriez tout petit face à une grosse poule, ça fait un peu...
T-Rex.
Un peu T-Rex, oui.
Oui, un petit côté T-Rex.
Ce sont les thérapodes, c'est des descendants directs des thérapodes qui étaient une famille de dinosaures.
C'est-à-dire que...
Ce sont vraiment des...
Colibris. Autruche, en passant par la poule, des dinosaures.
Ouais, voilà, absolument. Ah oui, tous, oui. Tous les oiseaux.
Ouais, ça fait une raison de plus pour tous les observer et s'y intéresser. Vous allez nous donner quelques conseils pour apprendre à les observer et à les reconnaître et à reconnaître leur chant dans la suite de ce temps d'un bivouac.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime. Now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. For my lovers in my crimes. Another day that I Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you. I'm better off without you. Another day without you. Moving on, gotta leave it best. I get on knowing you're the last. With a hold on this weeping heart, I was flooded with your lies.
C'était Roseau et Mélissa Lavaux qui chantaient « Why should I smile » sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Donc on a intérêt pour l'instant à continuer à marcher vers le bois pour être dissimulé. Et là d'écouter et de surveiller. Voilà, voilà. La première manifestation spontanée de la chouette-ulotte. D'abord, c'est un chant de mâle. Et là, cet individu, bah, il s'apprête simplement à sortir de son repos diurne. Et il va partir en chasse. Mais avant de partir en chasse, il manifeste sa territorialité. Et puis, juste à côté, pas loin, on entend « Iwik, Iwik, Iwik !» Donc un cri aigu, qui a rien à voir. Le premier, c'est monsieur, et après, c'est madame.
La femelle et le mâle chouette ulotte discutant la nuit au fond des bois. Nous étions en forêt de Rambouillet. Nos invités, les ornithologues Élise Rousseau et Philippe Dubois, publient Ornithérapie aux éditions Albin Michel. Et dans un des chapitres de votre livre, vous nous invitez à apprivoiser la nuit avec les oiseaux, Élise Rousseau.
Oui, moi, c'est vrai que le chant de la ulotte, c'est, je crois que c'est un des grands plaisirs de ma vie, en fait. Plus que de ma vie naturaliste, de ma vie tout court. Ce chant est absolument merveilleux et mystérieux. Et l'avantage aussi, c'est qu'on l'entend beaucoup en hiver, quand les autres oiseaux se taisent un peu plus. Et puis, c'est un chant de la nuit, effectivement. Ouais. Je vous parlais du silence tout à l'heure à propos du désert de Gobi. On se rend compte, en fait, en France, que la nuit est très habitée, en fait. Il se passe beaucoup de choses. Moi, j'avais peur de la nuit plus jeune. Et c'est pour ça que j'ai voulu en témoigner dans ce livre. À quel point, en fait, finalement, l'écoute des oiseaux, de la nature, m'a permis d'apprivoiser la nuit. Maintenant, le crépuscule, c'est un de mes moments de la journée préférés. C'est quand la nuit tombe, que les chouettes commencent à chanter, que les chauves-souris sortent, qu'on les voit volter dans le crépuscule. Et c'est vraiment grâce aux oiseaux, je pense, enfin, en tout cas, grâce à ma vie naturaliste, que j'ai apprivoisé la nuit. Ouais. Apprendre, en fait, à reconnaître tous ces sons de la nuit, que ce soit le renard, le chevreuil aussi, tous les bruits qu'ils peuvent faire, et tous ces bruits d'oiseaux, c'est parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent la nuit. Du coup, on se rend compte comme cette vie est vivante, cette nuit est vivante, habitée, et comme c'est une forme finalement de cocon protecteur, et c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est plus quelque chose presque qui nous protège finalement.
À partir du moment où on reconnaît, où on identifie, où on comprend ce que l'on entend, on dompte sa peur, cette peur ancestrale de l'obscurité. Et puis il y a aussi cette idée qui est très juste, à partir du moment où on ne voit plus bien, les autres sens sont exacerbés, avec une beaucoup plus grande acuité. Ça marche pour l'oreille, mais ça marche aussi pour l'odorat.
L'odorat, on sent des odeurs différentes. De toute façon, il y a les plantes sécrètent des odeurs un peu différentes la nuit. Et puis on entend ne serait-ce que le bruit, le bruissement des feuilles d'arbres. On entend plein de choses très différemment du jour, parce que déjà le bruit humain s'éteint un peu, parce qu'on les entend toujours un petit peu les humains, même en pleine nuit, souvent il y a toujours quelqu'un pour faire un peu de bruit, mais malgré tout quand même on arrive à entendre beaucoup de... Il y a toute une vie qui monte, qui s'élève de la nuit, qui est une vie merveilleuse, à la fois une partie qu'on se met à entendre qu'on n'entendait pas de jour, et une partie qui se réveille, c'est-à-dire qu'il y a tous les animaux de la nuit qui d'un coup se réveillent et nous font entendre leur son, parce qu'effectivement on les voit pas souvent, on les entend seulement.
Nos nuits et nos jours sont encore habités par les oiseaux, mais moins qu'avant tout de même, Philippe Dubois. voit, on observe en France et dans le monde un déclin des populations d'oiseaux. Dans quelle proportion ?
Écoutez, les études sont très claires. Pour l'Europe, c'est 25% d'oiseaux en moins depuis une quarantaine d'années. C'est plusieurs centaines de millions d'oiseaux en moins. C'est, pour la même période, c'est 2 à 3 milliards d'oiseaux en moins aux États-Unis. Mmh. Et il y a des milieux qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, hein, puisque cette diminution peut atteindre 60% de diminution, donc 60% pour les espèces des milieux agricoles.
Ouais.
Donc il y a
péril en la demeure.
Les signaux sont vraiment rouges. Oui,
Et on l'a vu venir depuis longtemps. Hein. Vous vous rappelez Rachel Carson, évidemment, en 1960, oui, avec son Printemps silencieux, qui entrevoyait la catastrophe. On ne peut pas dire que...
On ne savait pas.
Qu'on ne savait pas, et on ne peut pas dire qu'on a vraiment agi. Quelles sont les causes de cette hécatombe ?
Elles sont, comme toujours, elles sont multifactorielles. D'abord la perte des habitats, ça c'est très clair. De plus en plus, même si on essaye d'inverser un peu les choses, le réchauffement climatique, puisque un grand nombre d'espèces n'arrivent pas à s'adapter suffisamment vite par rapport à ce réchauffement qui va à grande vitesse. Malheureusement, et c'est vraiment de saison en ce moment, tout le problème d'une certaine forme d'agriculture qui, avec une utilisation importante des pesticides, entraîne évidemment la disparition des insectes, lesquels sont quand même les proies favorites des oiseaux, et notamment au printemps quand il s'agit de nourrir les jeunes. Il y a eu ça peut être la surpêche pour les oiseaux marins, ça peut être une forme de chasse. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'acharnent contre les oiseaux actuellement.
Alors, cette disparition des oiseaux est dommageable pour la biodiversité, évidemment, mais elle est aussi dommageable pour notre santé, puisque vous le montrez à longueur de page dans votre ouvrage Ornithérapie, paru chez Albin Michel. Vous montrez à quel point la présence et les chants des oiseaux nous font du bien, et vous dites aussi que pour avoir envie de les protéger, il faut apprendre à les connaître. Alors donnez-nous, là, dans les cinq dernières minutes qui nous restent, les conseils pour observer les oiseaux. D'abord, où les observer ?
Partout. Ça peut être chez soi, tout simplement. Quand on habite en appartement, en ville, eh bien, l'hiver, on peut mettre tout simplement une petite mangeoire pour les attirer. Et il suffit de passer un quart d'heure, 20 minutes, quand on peut aller regarder leurs balais, leurs allers-retours pour venir se nourrir.
Avec quand même le conseil, si on veut de sortir un peu des sentiers battus, si on veut pouvoir voir certaines espèces peut-être plus rares aussi.
Évidemment, quand on a la possibilité de le faire, c'est d'abord sortir, tout simplement avoir le plaisir d'humer l'air frais ou de profiter des derniers rayons de soleil pour aller dans la nature, dans la campagne, en forêt, en bordure d'un étang. Et puis là, comme on l'a dit tout au long de cette émission, mettre nos sens, la vue, l'ouïe, en éveil, prendre le temps, pas forcément essayer de poser un nom sur les espèces, on ne connaît pas tous les chants d'oiseaux, etc. Mais c'est vrai que si on fait un petit effort aujourd'hui pour essayer d'identifier, et Dieu sait si maintenant avec nos smartphones, on a des applications qui permettent, qui vous aident à identifier les oiseaux, eh bien, en mettant un nom sur les espèces que l'on observe, on rentre dans leur intimité et d'un seul coup, on va devenir... à notre tour, porte-parole de ces oiseaux, puisque prenant conscience de ce qu'ils sont, on sera beaucoup plus enclin à les protéger.
Alors on va essayer d'apprendre à reconnaître leur chant aussi. Ça aussi, ça s'entraîne. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui s'apprend. On commence avec un facile.
Alors ça, on l'appelle le compteur d'écu, parce qu'on a l'impression qu'il compte ses petits sous. C'est le pouillot véloce, qui est un oiseau très très commun, qui est ce qu'on appelle un migrateur partiel. Il hiverne surtout en Méditerranée, et puis il revient au printemps à des latitudes plus élevées. Il est très commun en forêt, dans les parcs.
On en écoute un autre.
Celui-là, c'est un forestier qui s'est de plus en plus adapté à la ville, c'est le merle noir.
Ouais.
Qui chantait au début du XXe siècle au fin fond des forêts, qui maintenant chante perché sur les antennes ou sur les cheminées des villes.
Ouais. Je précise pour les auditeurs que je ne vous ai pas prévenu des sons que j'allais diffuser pour le moment. C'est un sans faute. Et c'est quand même assez étonnant. Alors on en a pris des communs et faciles, hein, mais certains se ressemblent, hein, quand même quand on n'est pas initié.
Alors ça, c'est le grand chanteur, c'est le rossignol.
C'est le rossignol. Alors ça, c'est un son que vous nous avez offert, donc vous le connaissez particulièrement.
Oui, c'est un oiseau que j'ai enregistré dans le Cantal au petit matin.
Ouais.
L'air très pur. Très très pur, et donc il chante. C'est le soliste, hein, c'est fou parce que c'est un grand soliste et il a un vêtement très très simple. Il est tout brun. Ouais. Il a vraiment rien qui ressort. C'est un oiseau qui n'a aucun intérêt à regarder. Et c'est pourtant probablement le meilleur chanteur de l'avifaune européenne.
Alors là, c'est la voix plus éraillée. Hein. On est moins avec un oiseau. C'est une pie, oui. Une pie bavarde.
C'est ce que je veux dire. La pie qui, elle aussi, était forestière et qui est devenue, qui s'est enhardie et qui est venue maintenant jusque dans les villes. Alors, la pie jacasse. Et en fait, plus qu'un chant, c'est un jacassement.
C'est un jacassement. Allez, on termine avec un dernier pour la route.
Il ressemble à un troglodyte.
C'est un troglodyte mignon. Oui, c'est un sans faute. Bravo. Bravo. Vous aurez le droit de revenir pour un deuxième tour. C'est intéressant parce qu'on voit déjà l'acuité, la précision avec laquelle vous les reconnaissez. Comment ça se travaille? Si, on est passionné d'oiseaux ou on est intéressé, mais on n'a pas encore cette aptitude, comment on arrive à reconnaître aussi facilement, en quelques secondes, un chant d'oiseau?
Alors, faut d'abord avoir une pas trop mauvaise oreille. C'est sûr que si on est sourd comme un pot ou qu'on est très mauvaise oreille, on est assez mal parti.
Le fait de s'entraîner, ça entretient, Louis?
Ah oui, oui. Il faut faire très attention. Ce que je vous disais aussi, c'est il faut passer de l'entendre à écouter. Donc, faut se concentrer sur les sons pour mieux les apprendre. Et puis ensuite, aujourd'hui, on a maintenant plein d'applications comme Merlin, par exemple, qui est une application en open source, donc que l'on peut citer, qui va vous aider avec votre smartphone, vous enregistrer et il va vous dire ce que c'est. Donc c'est une certaine façon, on peut apprendre. Mais c'est l'habitude aussi, c'est des années aussi qui sont derrière pour... Alors là, c'est les plus faciles, mais après, il y a plus compliqué.
Mais justement, pour s'entraîner, on s'est dit qu'on allait commencer avec les plus faciles. Allez, un dernier mot, Élise Rousseau. Est-ce que ça a du sens de mettre des nichoirs dans son jardin, de mettre des mangeoires? Est-ce que ça aide les oiseaux? Est-ce que c'est important de faire ce genre de geste-là?
Mais écoutez, alors, en Finlande, par exemple, il y a des... quand vous vous baladez dans une forêt, il y a des nichoirs strictement partout, des mangeoires strictement partout. Donc il y a vraiment aussi des cultures, je pense, par pays. Nous, c'est vrai qu'en France, on dit c'est un peu un truc de grand-mère, de mettre sa mangeoire, tout ça, mais finalement, ça donne un petit coup de pouce, notamment les oiseaux ont du mal à trouver des infractuosités pour nicher de plus en plus, parce que maintenant, on veut que tout soit propre, qu'il n'y ait plus de ruines, qu'il n'y ait plus de troncs d'arbres morts, tout ça. Enfin, or, du coup, les oiseaux manquent un peu, des fois, disons que moi, je pense qu'on leur fait tellement de mal que donner un petit coup de pouce, ma foi, pourquoi pas.
Merci, Élise Rousseau et Philippe Dubois. Je rappelle le titre de votre dernier livre, où l'on peut retrouver entre autres vos conseils, Ornithérapie aux éditions Albin Michel. Un grand merci d'être passé par notre bivouac et resté avec nous. Dans un instant, nous partons étudier et regarder les écureuils avec Marc Giraud.
Un griot, naître dans une famille de griots, c'est déjà une école. Mais une école dans laquelle on ne va pas prendre un bic, un cahier pour écrire. Non, c'est l'école de la vie.
À toi mon totem, je ne crois qu'en moi-même. Et pour tous mes problèmes, je compte sur toi mon totem. Je mène une vie de poème, j'ai même plus dire je t'aime. J'ai pas perdu mes repères, grâce à toi mon totem. C'est pas lié à ces dollars, pas d'héritage en dollars. Pas peu fier de ce qu'on a et tout ce que j'aime vient de toi. Fin des cours, il est tard, là j'avance sans les phares.
Suis-je le totem de moi-même?
Suis-je le totem, le totem?
Le totem, le totem de moi-même.
Suis-je le totem, le totem?
Le totem, le totem de moi-même.
Suis-je le totem, le totem?
Le totem, le totem de moi-même.
Suis-je le totem?
Et dans l'égo-système, je cherche en moi-même mon totem, je le cache comme je l'aime, oui c'est lui mon emblème, car c'est moi sans dilemme.
Je le totem de moi-même.
C'était la Momalie qui chantait Totem, et merci à Djoubaka pour la programmation musicale.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Souvent, je me dis, mais comment fait la nature pour créer des choses aussi parfaites?
Bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Naturaliste de terrain, tous les lundis, vous nous emmenez observer la nature. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux écureuils avec leur queue en panache caractéristique. Elle lui sert à quelque chose ou c'est juste pour faire joli cette queue en panache?
Alors c'est joli, ça c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit que l'écureuil c'était un rat qui avait un bon attaché de presse. Parce qu'en fait c'est un rongeur, mais il est tellement mignon avec sa queue. Ouais. Donc elle sert plein de choses. D'abord de balancier pour équilibrer les sauts, mais pas que. Ouais. Ça sert d'ombrelle, de parapluie, de duvet quand il dort la nuit, d'oreiller, d'écharpe et aussi de signal visuel. Parce que si vous voyez un écureuil, il vous voit, donc il est inquiet. Donc il va s'agiter, il va beaucoup agiter la queue, ça fait une sorte de sémaphore. Il va pousser des petits cris d'alarme que je vais essayer de vous imiter, qui sont des espèces de... comme ça. Et ça, c'est un cri d'alarme d'écureuil.
Pour prévenir ses congénères qui a
été voilà,
un danger.
Voilà, c'est un réflexe de peur qui avertit les autres.
Et il mange quoi alors, l'écureuil ?
Alors, il mange beaucoup de graines, parce que les graines, c'est très énergétique. Comme vous savez, c'est un acrobate. Hein. C'est incroyable à regarder vivre. Donc, il mange beaucoup de graines. Et c'est un virtuose pour manger les graines, parce que il n'a pas de pouce. Il a des mains comme nous, mais il n'y a pas de pouce. Mais avec ses quatre doigts, il peut casser et manger une noisette en 22 secondes.
Ah oui.
Donc il est très très rapide.
Ah oui.
Il peut décortiquer 30 pommes de pin à l'heure. Ça fait à peu près 40 000 par an. Donc c'est vraiment un virtuose de l'épluchage.
Hein. Ah oui, 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 oui.
D'ailleurs, quand on est un bon naturaliste, si on voit les cônes de pin épluchés, on peut voir si l'écureuil est un droitier ou un gaucher. Il y a les deux.
Ah, parce qu'il y a des gauchers
oui, voilà,
chez
ça
les écureuils.
De la spirale.
Et il ne mange pas que des graines.
Non, en fait, c'est un rongeur. Ouais. C'est d'abord un végétarien, mais il peut attraper des insectes. Il peut aussi piller des nids ou croquer des œufs, des oisillons. Et ça, pour son image de marque, là, du coup, l'attaché de presse ne sera pas content.
Ah oui, oui. Après, on vient de parler des oiseaux, là, ouais. Effectivement, c'est pas leur
non.
ami.
Et il cueille aussi des champignons qu'il fait sécher. Il les accroche à des fourches d'arbres au soleil et il les fait déshydrater, quoi, un peu comme on fait avec les cèpes, pour les mauvais jours.
Et donc, il fait des sortes de conserves, en fait. Il fait des réserves.
Ah oui, il fait aussi des réserves où il stocke ses graines. Alors là, il en enterre plus de 2000 en 2 ou 3 mois. Ça, c'est pour l'hiver, parce qu'il hiberne pas. Hein. Quand il neige, on peut le voir sortir. Il a un petit creux, hop, il va déterrer ça. Il les retrouve à la mémoire et au flair, évidemment. Donc, il peut en oublier, forcément, ça on le sait. Donc, les graines qu'il oublie finissent par germer et l'écureuil joue les pépiniéristes de la forêt.
Ah oui.
Et dans mon jardin, j'ai un noyer, par exemple, alors qu'il n'y a pas de noyer à au moins 500 mètres de la maison. Donc, je ne sais pas si c'est un écureuil, ça peut être un jais, parce que les jais font pareil, mais surtout avec les glands. Ouais. Donc, je soupçonne un écureuil de m'avoir transporté des noix chez moi.
De vous avoir offert un noyer,
oui,
vous voulez dire.
Oui, c'est un beau cadeau.
Où nichent-ils, ces écureuils ?
Alors, ils font des nids un peu comme les oiseaux.
Ouais.
Parce que, bon, de temps en temps, c'est dans des cavités d'arbres. Mais ça, c'est un peu les dessins animés avec des espèces américaines rayées, tic et tac et tout ça.
Ouais.
Mais ça, c'est plus le folklore. Ça peut arriver. Ils peuvent même nicher dans des terriers de lapins. Mais en général, ils font des nids et plusieurs dans l'année.
Ouais.
Donc, ils font un gros, gros nid pour l'hiver, très confortable, où la lumière ne passe pas, où ils peuvent dormir en groupe avec les voisins, les parents.
Ah oui.
Ils se réveillent de temps en temps, voilà. Ils en font des nids d'été plus légers, adaptés.
Ouais.
Et il y a aussi un nid de mise bas pour la femelle. Et quand elle s'en va, elle l'obstrue, elle laisse les petits dedans, elle revient.
Ouais.
Enfin, ils sont quand même acrobates, mais aussi bâtisseurs.
Ah oui, bâtisseurs avec plusieurs maisons secondaires,
oui,
je comprends bien.
C'est des grosses boules.
Oui. Et pour les amours, alors, comment ça se passe ?
Ah, c'est chaud, c'est chaud.
Ah bon ?
Ils se poursuivent, ils font beaucoup de bruit. Et on les entend, on les voit qui se courent.
Là, ils se courent après ou ils se font la cour ?
Voilà, c'est des petits cris nerveux.
D'accord.
Et ça, c'est des poursuites. Donc, il peut y avoir une femelle, mais plusieurs mâles derrière, parce qu'elle émet des phéromones et eux, ça les attire. Donc, ils courent après.
D'accord.
Et un mâle amoureux, il a le scrotum rouge.
Ah.
Voilà, si vous savez voir son état émotionnel, vous regardez ses noisettes. Voilà, vous savez s'il est amoureux.
Comme c'est joliment dit. Et que faire alors pour aider les écureuils ? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide déjà ? Bien, souvent, vous nous dites d'en prendre soin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les écureuils ?
D'en prendre soin et en même temps les laisser sauvages. C'est un peu contradictoire. Disons, si on a des arbres, on les favorise par des conditions naturelles. Si vous avez un chêne, un noisetier, un épicéa, tout ça, c'est bon pour eux. Ils vivent là où il y a des arbres. Ils ont besoin d'un bon hectare quand même pour vivre. Sinon, de l'eau, toujours de l'eau. Et il y a aussi des distributeurs, des mangeoires pour écureuils avec un petit couvercle. Mmh. Il y a l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui en distribue. Les oiseaux peuvent pas ouvrir, mais les écureuils, évidemment, avec leurs petites mains, ils peuvent.
Oui, mais alors, du coup, là, on est avec des animaux sauvages, mais on les aide, on leur donne à manger, là-dessus, vous...
Oui,
ça
alors,
pose pas de problème.
Entre nous, c'est pour le spectacle, surtout. On les voit, on leur donne quelques noix, et on les voit, c'est intéressant pour les enfants. Mais oui, c'est vrai qu'il faut pas en abuser.
Ouais. Merci, Marc Giraud. Je signale que vous avez publié La forêt en bord de chemin, chez Delachaux et Niesley. Un grand merci à vous, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.